Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau flash résultat du week-end. On va parler des résultats sportifs des clubs charentais dans un week-end de reprise qui était un peu plus chargé que le précédent. On va commencer par le football et la reprise du championnat national 2 avec l'ACFC qui avait un déplacement à Trélissac vendredi soir. Ça a été un déplacement important puisqu'au final ce match de Trélissac sera le seul match officiel de l'ACFC en janvier, donc c'était important d'aller faire un résultat. Et malheureusement, l'ACFC s'est incliné 1-0 du côté de Trélissac. Le match a basculé à la 20e minute sur un coup du sort, un ballon en hauteur, une faute de main d'Alan Hunou malheureusement, et c'est Joris Gouache qui profite de l'aubaine pour inscrire le seul but du match, 1-0 donc à la 20e minute. À noter que Joris Gouache, le buteur, va sortir sur blessure 10 minutes plus tard. Il va y avoir 30 minutes d'arrêt de jeu puisque les pompiers sont intervenus sur le terrain. Joris Gouache souffre d'une fracture tibia péronée et malheureusement la CFC a tenté de revenir en deuxième mi-temps sans y parvenir, donc victoire de Trélissac 1-0. Les autres scores de cette journée de National 2 avec la victoire de Bergerac contre Andrézieux 2-0, la victoire de Desherbiers à Gaul 2-0, la victoire de Lorient à Bourges 4-1, la victoire de Romorantin contre Nantes 2-0, 0-0 entre Saumur et Angers, 4-1 pour Chamalières contre le Stade Bordelais, et enfin Moulins-Isère-Foot s'impose 2-1 contre Vierzon. En tête, le Gaul FC avec 29 points, deuxième Bergerac 28 points, troisième les Herbiers 25 points, la CFC reste sixième, mais la CFC ne compte plus que 3 points d'avance sur le premier non relégable puisque Moulins est 11e avec 17 points. Le week-end prochain, pas de match pour la CFC puisqu'il devait recevoir Chamalières, mais comme Chamalières est encore qualifié en Coupe de France, priorité à la Coupe de France. Et donc on retrouvera les Angoumoisins en match officiel le 2 février du côté de Gaul FC, un déplacement chez le leader qui s'annonce forcément très compliqué. D'ici là, peut-être que les Angoumoisins auront réussi à organiser quelques matchs amicaux pour garder la forme. En régional, seulement un résultat a donné, un match en retard qui s'est joué pour Merpin du côté de Fontaine-le-Comte. C'était samedi à 15h. Victoire de Fontaine-le-Comte 2-0. Ça confirme malheureusement que ce championnat de R2 est compliqué pour Merpin, puisque Merpin est 11e avec 7 points. Fontaine-le-Comte est 9e avec 10 points. Donc c'était forcément un match important pour les hommes de Romain Rigallo. Merpin aura quand même encore deux matchs en retard à disputer, eu égard à son parcours en Coupe de France. Donc tout reste possible pour les Merpinois. Il y avait de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec quelques derbys savoureux à disputer. Déjà, il y avait le sixième tour pour Verdille qui jouait contre Venise Verte. C'était un match hyper attrayant puisque le vainqueur de ce match rencontrait La Rochelle le week-end prochain. Et malheureusement, Verdille s'est incliné 3-0. Les hommes de Jonathan Chaussat qui jouaient sur le synthétique de Château-Bernard, malheureusement, ont réalisé un non-match. C'est dommage parce qu'il y avait l'occasion d'affronter une équipe de R1 au tour précédent. Sur les matchs du septième tour, deux derbys savoureux. L'Alliance 3B qui recevait Cognac, victoire de Cognac à l'issue de la séance de tir au but, 0-0 dans le temps réglementaire. Et l'ACFC se déplaçait à Ruffec, la réserve de l'ACFC, et victoire de la réserve de l'ACFC, 3-2 au terme d'un match épique, puisque Ruffec est revenu à 2-2 à la 80e minute. Et Noah Marchesso, qui a marqué 2 buts dans ce match-là, donne la victoire aux Angoumoisins à la 84e minute. Donc l'aventure continue pour l'ACFC. Ça fait 2 qualifiés, puisque dans le même temps, Rochefort s'est imposé à Soyaux 4-1. Et donc, on attendra le verdict la semaine prochaine du match de Basso. Basso qui va recevoir Périgny. Donc, match compliqué pour Basso, puisque Périgny est deux divisions au-dessus. Et donc, on aura donc les 2 qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Donc, le 8e tour, Cognac et la réserve de la CFC. Il y avait aussi quelques matchs de Coupe de Charente ce week-end. Donc, c'était des matchs en retard des 16e de finale avec la qualification de Nersac à Montmoreau 1-0 et la qualification de Leroy contre Sireuil 2-1. Il reste encore deux affiches qui n'ont pas pu jouer, notamment Saint-Michel-Moutier et une autre affiche entre clubs de D2, notamment Aigre. Mais on va déjà donner les qualifiés pour les huitièmes de finale dont le tirage aura lieu demain au siège du Crédit Agricole de Puymoyen. Donc avec Saint-Michel ou Moutier, les Portugais d'Angoulême, le Brie, Basso, Leroy, donc ça c'est des équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale. On va aussi rajouter Ruffec ou Aigre, c'est le match en retard, donc le vainqueur de ce match là sera qualifié. Verdille, Montbron, Ruelle, Bélair, Chasseneuil, Jarnac, Linard, Mansle et Nersac, et un club de Détroit, Fontafi. Donc tous ces clubs là seront tirés au sort demain et on aura l'affiche des huitièmes de finale qui se disputeront ultérieurement. On va parler de foot féminin avec bien sûr le gros événement ce week-end en Charente, c'était l'avenue de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, hein, multiple championne de France, multiple vainqueur de la Ligue des Champions. Et malheureusement, défaite de Soyaux logique 3-0. C'est la Canadienne Vanessa Gill qui ouvre le score d'une tête sur coup de pied arrêté à la 35e minute. Amandine Henry met le deuxième but juste avant la mi-temps. Et en seconde période, c'est Wendy Renard, la capitaine de Lyon, qui ajoute un troisième but, 3-0 pour Soyo. Après, voilà, c'est un résultat logique. Dans les autres matchs de cette D1, Arkema, le PSG a battu Rodez 1-0. Guingamp et Le Havre ont fait 2 partout. Bordeaux a battu Dijon 2-0. Montpellier a battu Reims 2-0. Et Fleury a gagné contre le Paris FC 2-0. Au classement, le PSG est premier avec 32 points. Deuxième Lyon, 31 points. Troisième Montpellier, 22 points. Soyo est 11e et premier relégable avec 5 points. Et les filles de Michel Bradaglia vont jouer le week-end prochain à Rodez, un match capital pour Soyo puisque Rodez est dernier avec 5 points. Et l'écart commence à se faire mine de rien avec Dijon et Guingamp qui ont 3 points d'avance. Donc pour Soyo, à Rodez, la victoire sera capitale. On va revenir rapidement sur le résultat du SA15 hein, qui s'est incliné à Robert Dieuchon du côté de Rouen, 42-16. Malheureusement, une mauvaise opération comptable pour les Angoumoisins. L'UCS recevait Tarbes et malheureusement, nouvelle défaite pour les Cognacés, 32-9. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite. Cognac est toujours à la recherche de sa première victoire et bien sûr, malheureusement, Cognac est toujours lanterne rouge au classement. L'UBJ a failli réaliser un bon coup du côté de Nafarroa. Malheureusement, l'UBJ s'incline 20-11. Un bon match globalement de l'UBJ. Malheureusement, les Barbeziliens restent 10e au classement. Donc il faudra remporter les prochains matchs, notamment ceux qui seront à domicile. En National 1 féminine de handball, et les deux clubs charentais jouaient. La LJ recevait Montcoutan, Montcoutan qui était top 4 du classement, donc c'est un match compliqué pour Cognac qui était lanterne rouge. Malheureusement, défaite de la LJO 28-14. Dans le même temps, l'ACH se déplaçait à Côte-Basque. Défaite 30-29, une défaite d'un but. Mais les Angoumoisines qui ont été largement menées et qui sont revenues en fin de match, malheureusement, elles sont venues mourir à un seul but de Côte-Basque. Au classement, c'est Pessac qui est en tête avec 36 points. L'ACH est 6e avec 24 points et malheureusement, Cognac est dernier avec 12 points. En basket, la remontée fantastique des joueuses de la couronne en National 3 féminine, un déplacement à Tours qui était lanterne rouge. Tours menait 44-22 à la mi-temps, donc ça faisait 22 points de rebours. Et bien la couronne est revenue dans un premier temps à égalité puisqu'il y a eu une prolongation dans ce match-là. Il y a eu même une deuxième prolongation et finalement la couronne s'impose. La couronne s'impose 87-84. C'était vraiment une victoire hyper importante et les couronnes sont allées la chercher, donc bravo à elles. Au classement, le LCB est 9e avec 17 points, soit une victoire de retard sur le 8e, Riez. Et donc ça fait 4 victoires et 9 défaites au compteur pour des couronnaises qui dans 2 semaines du coup désormais vont recevoir le poinçonné. Le poinçonné qui est actuellement 2e du classement. En pré-national masculine, on va parler bien sûr de la CTC Grand Cognac qui recevait Étré pour l'un des matchs sommets de la journée. Et c'est une victoire éclatante de Grand Cognac qui s'impose 82-54. Cognac remonte du coup 2e au classement avec 1 point de retard sur Tulle et à égalité de points avec Étré, la réserve du CSP Limoges et Limoges à SPTT. C'est un championnat hyper dense hein, puisque les 5 premiers se tiennent en seulement une seule victoire et donc Cognac réagit après sa défaite la semaine dernière contre la réserve du CSP. La victoire contre Étré fait énormément de bien pour les hommes du président Loïc Arami. On va parler de judo enfin avec le tournoi Label Excellence Junior qui se déroulait à Orléans. Quelques cognacés hein, sur la ligne de départ, 6 précisément, avec 2 médailles pour la couronne Grand Angoulême Judo. La 3e place de Fatih Dupuis en moins de 60 kilos et la 3e place également de Marvin Banama Kibiti en moins de 73 kilos. Donc bravo à eux. Les autres couronnés n'ont malheureusement pas été classés. Mohamed Mazouzi en moins de 81 kilos, Sey Arada en moins de 60 kilos, Tristan Korzinski en moins de 66 kilos et Manon Desfarges en moins de 48 kilos. Enfin, un mot de course, mais pas de course sur piste, hein, de course de trail, puisque il y avait la Mona Couturne, pardon, qui se déroulait à Monaco. Donc c'était un trail nocturne de distance parcourue sur ce trail. Sur le 9 km, victoire d'Oussine Ramoun en 39 minutes et 47 secondes. Et sur le 14 km, victoire de Fabien Mento en 58 minutes 28. À noter que la première féminine termine donc 20e de cette course. C'est Irène Aubré donc qui termine première féminine de cette course. Bravo à elle. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine certainement pour d'autres trails, puisque les trails vont commencer. La saison des trails démarre tout juste. On se retrouve dans Culture Sport dans quelques instants avec l'interview de Didine Ben Slimane, l'entraîneur de Siroy. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux résultats. Charentais, bonne soirée à tous. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur Attitude. Attitude, c'est votre radio 98.3, 90.7, attitudefm.com. Vous êtes sur nos ondes et nous allons ensemble partager un moment. On va parler de notre émission Culture Sport. Culture Sport, c'est chaque lundi 19h-20h30, après le SA15 de Christian. J'accueille aujourd'hui Didine de Cireuil. Bonjour Didine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue.
Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Puis merci de m'avoir invité. Hein. Merci.
C'est un vrai plaisir. J'accueille aussi Dédé. Salut mon Dédé.
Salut Didier, salut Christian et salut Didine. Je salue également les auditeurs et je leur souhaite évidemment plein de choses pour cette nouvelle année 2023.
Christian, bonjour. Tu vas donc
bonjour à tous.
En terra cognita avec Didine, non?
Oui, effectivement, avec Didine, on a partagé plusieurs conversations de football, donc toujours sympa de parler foot avec un technicien comme Didine, puisque c'est un très bon coach et c'est surtout encore un très bon joueur, donc ça va être un plaisir de discuter avec lui.
Dédé, donc je te laisse le soin de poser la première question, peut-être.
Je lui ai demandé d'abord la biographie de Didine, son passé, et puis ensuite Didier et Christian, vous reviendrez sur le terrain que vous connaissez bien. Donc ta biographie Didine, et puis depuis combien de temps tu es donc au club de Cireuil?
D'accord.
Oui, ce club, je tenais avant bien saluer Valérie et puis Alain, qui sont des amis, et puis Burbeau, qui est le secrétaire emblématique de la commune de Cireuil, voilà.
Donc ma biographie, j'ai parlé en tant qu'adulte senior, quoi.
Oui.
Ou en tant qu'entraîneur, joueur à entraîneur ou juste entraîneur, comme tu veux.
Ce que tu veux, ta biographie.
Alors non, en tant que joueur en catégorie senior, j'ai joué un peu à tous les niveaux. J'ai goûté au niveau district comme au niveau le plus haut niveau régional. Donc j'ai fait une belle épopée avec la Grand Fonds en 3e division de district en Coupe de France. 3e division de district quand même. Et puis de 3e division de district, juste après l'année à la Grand Fonds, j'ai atterri à Chauvigny en régional 1. Et puis après je suis passé par Soyaux et puis Moutier, puis après je suis venu à Cireuil en tant que joueur et puis ça fait exactement là j'attaque ma 5e année en tant que entraîneur joueur.
D'ailleurs ton départ à Chauvigny, ça avait d'ailleurs un rapport avec la Coupe de France, parce que on rappelle qu'avec la Grand Fonds vous aviez été au 6e tour et vous aviez justement joué contre Chauvigny, un match d'ailleurs super, hein, je crois que ça avait fait genre 4-3, un truc comme ça. C'est là-bas que Pascal Picard, de l'entraîneur de Chauvigny de l'époque, t'avais remarqué.
Ouais, c'est par rapport à ce match-là, par rapport à Chauvigny, je crois que c'était le 6e tour de Coupe de France.
Ouais, exactement.
Et puis c'était un gros match, on avait fait on avait fait un très très bon match contre Chauvigny. C'est une équipe qui jouait tout le temps les hauts tableaux en régional 1. Et puis voilà, et puis je lui ai tapé à l'œil à l'entraîneur et puis il m'a dit de venir. Il voulait me prendre dès la traite, il voulait me prendre, il voulait que je signe à Chauvigny, ça s'est pas fait. Mais j'allais quand même m'entraîner avec eux en régional 1 et puis jouer le week-end en 3e division district avec la Grand Fond. Donc ouais, et puis ça. Ouais. Avec Pascal Picard, j'ai beaucoup appris avec cet entraîneur. En peu de temps, j'ai plutôt appris.
Pour conclure sur l'épisode de la Grand Fond, c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs de l'époque qui sont devenus maintenant entraîneurs. Je pense notamment à David Angao, qui est entraîneur de la réserve de Jarnac, et puis à Yad Ali Sako, qui est entraîneur de Bel Air. Est-ce que tu as gardé des attaches avec eux? J'imagine que vous échangez maintenant, que vous êtes tous techniciens.
Ah, bien sûr, ouais. On arrive à se rencontrer des fois. On joue l'un contre l'autre des fois. L'équipe réserve de Cireuil, j'ai dans la poule de Yad Ali Sako, Bel Air, et puis de l'autre côté il y a Jarnac qui est dans l'autre poule. Mais il se figure que Cireuil, le dernier match Jarnac Cireuil, c'était David qui était sur le banc et moi j'étais sur le banc adverse, donc ça m'a fait j'étais content de le retrouver, puis voilà. Et donc il était en tant que coach adjoint, il s'occupait de Jarnac. Puis bien sûr, on discute, on parle du passé ensemble, cette épopée avec la Grand Fond, et puis on donne des conseils aussi, on s'entraide en tant qu'entraîneur maintenant. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont devenus entraîneurs par rapport à la Grand Fond. Il y a Koli Kanté, il y a Bouba qui a commencé, et puis Papou. Papou aussi, là, il a entraîné les GSF portugais, et là, il a arrêté cette année, là, il est à Soyaux en ce moment en tant que joueur, mais. Pendant 3-4 années, il était entraîneur.
Donc, qu'est-ce qui a fait de toi que tu sois un entraîneur?
Alors là, sincèrement, je faisais éducateur chez les petits. J'aimais beaucoup. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Transmettre mon savoir-faire. Et puis, je suis devenu entraîneur. Ça s'est fait par hasard, quoi. Parce qu'à la base, je suis venu à Cirey en tant que joueur pour renforcer l'équipe en tant que joueur. Et puis à la trêve, il y a eu mon autre entraîneur qui était Xavier Ménard, suite à par rapport au travail, il ne pouvait pas continuer en tant que coach. Et du coup, on m'a proposé de devenir entraîneur, donc j'ai appris sur le tas directement, quoi. Et voilà, et puis donc j'ai fait une demi-saison en tant qu'entraîneur-joueur, et puis on est monté directement en Régional 2. Mmh. Et puis voilà, après j'ai pris ce rôle-là, et puis j'apprends chaque jour, et voilà, j'essaie de transmettre mes connaissances, et puis pour le moment ça marche, donc c'est bien.
Comment tu gères le fait d'être entraîneur de l'équipe première qui est en Régional 2, et tu joues aussi un peu avec la B en D2, il y a aussi peut-être parfois des entraînements avec les jeunes, comment tu gères un peu finalement plus les entraînements de l'équipe première, comment tu gères tout ce programme de ministre un peu là?
Ouais, après c'est pas, mais de toute façon on est obligé d'avoir plusieurs rôles, hein, pour des petits clubs comme nous, on est obligé de jouer, voilà, avoir plusieurs rôles. Et puis comment ça se passe, la chance que j'ai, c'est que j'ai des joueurs, on va dire, en première qui sont très très intelligents, on va dire. Dès que je mets l'entraînement en place, ils sont là, ils sont à l'écoute, et puis moi ça peut me permettre de m'entraîner en même temps avec eux. Et puis voilà, et puis aussi j'ai un dirigeant avec moi qui est, quoi, on va dire, un dirigeant plus qui est ici avec moi, et puis qui je lui donne les consignes, et dès que ça va pas aussi il intervient. Après je pensais vraiment sincèrement qu'entraîneur joueur ça allait être quelque chose de très 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 dur, parce qu'on m'a tout le temps dit ouais tu peux pas faire les deux, mais sincèrement j'ai déjà vu d'autres entraîneurs joueurs dans d'autres clubs, et ça s'est fait au fur et à mesure, et sincèrement j'arrive à bien m'en sortir, et puis non, ça va, sincèrement ça va.
D'ailleurs, j'en parlais avec Yoann Lesquilleux, qui lui était aussi longtemps entraîneur-joueur du côté de Ruffec. Il me disait souvent que lui il avait un relais sur le banc quand lui était sur le terrain. Est-ce que tu as eu un peu la même démarche, c'est-à-dire tu étais entraîneur-joueur, tu étais sur le terrain et sur le banc il y avait un relais?
Ouais. Bah c'est ça, dès que je parle du dirigeant plus, c'est ça.
D'accord.
C'est en gros, voilà, le relais, il est là, ça veut dire qu'il voit ce qui se passe. Moi, je lui donnais les consignes, je disais après de faire attention à si le bloc, il est bas, trop, ou ainsi de suite, si quelque chose n'allait pas. Et puis, voilà, et puis, il a intervenu, il avait le droit à intervenir. Donc, l'idée, c'était ça. Et puis aussi, dans le terrain, ça me permettait de réajuster les choses, parce que des fois, les joueurs, ils ne vous entendent pas de l'autre bout. Et puis là, d'être juste à côté, de réajuster juste à côté de moi des choses.
Qu'est-ce qu'on voit en plus sur le terrain, plutôt que d'être sur le banc de touche?
Non, après, sur le terrain, c'est plus à l'extérieur qu'on va avoir, des choses. Après, sur le terrain, parce qu'après, on est joueur aussi, il faut assurer en tant que joueur.
Oui.
Donc, il faut se concentrer sur nous-mêmes. Et après, c'est ce qu'on voit, c'est surtout sur les. Ce qui est bien, dès qu'on est sur le terrain, c'est un exemple, on est en bloc, on doit presser, et ben le dynamiteur ça va être moi, je suis juste à côté, je vais dire je vais donner un conseil directement, vas-y à mon coéquipier sur ce joueur là, moi je vais aller sur l'autre, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est plus simple de faire ça sur le terrain qu'à l'extérieur, donc c'est comment lancer le pressing, des choses comme ça, et c'est voilà, c'est réajuster ces petites choses là qui sont hyper hyper importantes tactiquement, quoi, pour être en place.
Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous recevons Didine et le club de Cireuil qui répond aux questions de Dédé et de Christian.
On va parler peut-être, après cette belle présentation du championnat. Championnat qui, par rapport à la saison passée, bon, au niveau de l'effectif, et au regard évidemment des résultats, aujourd'hui, ça vous place à la quatrième place. J'ai pu remarquer également, pour conclure, au niveau de l'attaque, c'est peut-être ce qui pêche le plus, mais au niveau défense, c'est super, puisque il y a peu de buts qui sont encaissés.
On a travaillé surtout l'aspect, par rapport à la saison passée, on a travaillé surtout l'aspect défensif, parce que je remarquais qu'on prenait pas mal de buts, donc je me suis dit, si on défend bien, on aura des occasions et on pourra gagner des matchs comme ça. Donc l'idée, c'était, on a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif. Et du coup, ça continue encore cette année. Et encore, je suis pas très content encore, parce que l'année dernière, on avait pris que 7 buts de toute la saison. 12 buts, excusez-moi. 12 buts de toute la saison.
En 22 matchs?
En 22 matchs, on avait pris 12 buts. On était la meilleure défense de toutes les régionales 2 de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était un truc où j'en étais fier, parce qu'on avait bien travaillé cette chose-là. Et puis là, cette année, on a pris plus de buts, mais après, c'est par rapport aussi à l'effectif. Il suffit juste deux, trois joueurs de base qui sont absents le jour J. Ça change toute notre défense, et, Et voilà, et après ça, voilà, il y a pas les mêmes automatismes, il y a pas, on travaille pas pareil, quoi. Et du coup, on a pris pas mal de buts sur nos erreurs à nous. Donc c'est des choses que voilà, je mets un point d'honneur sur eux, parce que pour moi, ma devise, c'est si on défend bien, on gagne des championnats et voilà, on gagne des titres avec ça. Si on défend bien, c'est pas que moi, hein, c'est un grand entraîneur qui disait ça aussi, et il a raison. Donc maintenant, c'est comment bien défendre aussi. Puis là, cette année, par rapport à ce qui change à la saison passée, c'est qu'on a perdu notre attaquant. Il a fait un très bon attaquant, un petit jeune, Issam Boukarta. Et il s'est fait les ligaments. Et franchement, il est prometteur, ce petit jeune. Et là, cette saison, donc on ne l'a pas. Donc, on s'adapte. Et c'est ce qui fait qu'on a pas mal d'occasions, mais on n'est pas efficace. Parce que lui, c'était lui qui finissait presque toutes les actions. Et puis voilà, c'est. Et puis par rapport à ce championnat-là, c'est franchement, je suis content parce que il y a que des belles équipes et toutes les équipes ont des arguments pour gagner. Donc là, c'est un championnat très très serré et pour sortir notre épingle du jeu, c'est chaque match c'est une finale. Il y a pas de avec des grosses équipes et tout le monde en plus avec les nouvelles réformes de cette saison. Là, il faut savoir que les quatre derniers descendent. Donc là, c'est vraiment. Et si vous pouvez regarder le championnat, hein, c'est le classement. Ça joue à rien. Ça joue à 2-3 points. Le premier, il est juste à 2 points de nous. Et jusqu'au 8e, ça joue à 3, 5, 6 points. C'est-à-dire qu'il suffit juste de faire une bonne série, de gagner 2 matchs. Et on se retrouve premier. Et il suffit de perdre 2 matchs. Je peux te retrouver dans le bas de classement. Donc, non, je suis content. Et puis, là, on va vraiment voir. La saison dernière, on a vraiment vu ce qu'on était, mais là, c'est vraiment un autre niveau. Là, on va vraiment, vraiment voir ce qu'on voit. Parce que la région bordelaise, franchement, niveau football, c'est un autre niveau, quoi. Il y a un gros vivier de bons joueurs, c'est un autre niveau. Donc là, voilà, on joue le trouble fait, on va dire.
Nous,
on
est visité toujours le trouble fait. En parlant de la défense, donc, dans le détail, vous avez fait 10 matchs de championnat, vous avez encaissé 9 buts. À noter que vous avez encaissé 4 buts sur un match. Donc au final, on peut dire que vous avez encaissé seulement 4 buts en 9 matchs. Et par contre, là où je te rejoins, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de matchs un partout. Et c'est vrai que la différence entre ce un partout et le fait de ne pas encaisser de buts et de gagner 1-0, elle est énorme en termes de points.
Ouais, bah après c'est sûr, c'est que nous là, ce qui nous manque, c'est surtout l'efficacité devant le but. Pourtant on a les occasions, mais on n'arrive pas à la concrétiser. Et ce qui fait que en plus match nul, t'avances pas beaucoup, c'est qu'un point. Et dès que tu gagnes, c'est 3 points directs, t'avances dans le classement. Et on a beaucoup de, il y a des matchs où j'ai des regrets, comme tu dis, où on a pris 4 buts. C'est nous-mêmes, on est passé à côté. Après, il y a des matchs aussi. Où on gagne 1-0, on prend un but, deux matchs comme ça où on prend un but dans les dernières minutes, notamment Saint où on doit gagner le match facilement, on fait 1-1, c'est des points qu'on perd, et ainsi de suite, notamment aussi Médoc Atlantique, on gagne 1-0, il marque à 30 secondes de la fin, dernier corner, il marque, des choses comme ça, et ce qui fait que c'est une frustration parce que c'est deux points perdus à chaque fois, mais ça monte le niveau, il faut être concentré 95 minutes, nous aussi ça nous apprend à être concentré 95 minutes. Et jouer les matchs à fond jusqu'au bout. Et puis
en parlant de frustration, vous êtes toujours invaincu à domicile, mais il y a beaucoup de matchs nuls. Est-ce que du coup le fait d'avoir fait beaucoup de nuls à domicile, ça ajoute un peu de la frustration?
Ah oui, bien sûr, notamment le dernier match, ils ont fait un bon, on va dire que Saint ont fait un très très bon résultat, parce que normalement on doit plier le match et on n'y arrive pas, et ils m'arrivent à la fin et ça fait 1-1. Et eux, pour eux, ils ont fait une belle affaire. Nous, c'est un nul, mais comme une défaite. On a fait comme une défaite. Donc, cette frustration-là, bien sûr qu'elle est là. Et c'est pas que ce match-là. Et puis, il faut savoir que, par expérience, par rapport à la saison dernière, nous, on n'est pas monté, façon de parler, on n'a pas terminé champion. Parce qu'il y a des matchs comme ça à la maison, on devait gagner, on les a pas gagnés. Ce qui fait qu'on a perdu 2 points au classement et 2 points au classement. Il y a des matchs comme ça faisait 4 points. Et 4 points, c'est ce qui fait que soit t'es premier, soit tu peux descendre. Et là, il faut savoir que cette saison là, c'est vraiment en plus surtout dans notre poule, hein, chaque point il est hyper important. Donc on verra à la fin de saison si cette frustration ça se trouve elle va grandir, parce que on sait pas encore. On joue le maintien, on sait pas encore. On verra, quoi. Mais c'est sûr que c'est une frustration, et j'espère que cette frustration elle va pas nous porter des dégâts, je veux dire en fin de saison, quoi. J'espère que ça va être dans le bon sens.
Des dignes de R2, ça vous va bien ou vous visez plus haut?
Non, après moi je suis quelqu'un, moi je sincèrement, Je joue mes matchs, comment dire, moi je veux gagner tous les matchs. C'est-à-dire que si je veux gagner tous les matchs la R2 et puis aller dans un nouveau atteindre un nouveau objectif en R1, je le ferai quoi. Moi ça me fait pas peur, tout ça au contraire, j'ai envie d'avancer, profiter de ce moment-là en tant qu'entraîneur et de jouer tout à fond quoi, jouer vraiment tout à fond, que ce soit la Coupe de France, même la Nouvelle-Aquitaine, même championnat, jouer tout à fond. Et puis la R2, c'est un championnat que je commence à connaître, le niveau, je veux dire. Puis la R1, je sais que c'est un palier au-dessus où il faut des joueurs, où l'aspect athlétique, il faut des joueurs à 100% tout le temps et c'est vachement tactique. C'est vachement tactique, c'est des joueurs un peu plus intelligents en façon de parler tactiquement. Mais après, c'est les qualités techniques d'un joueur, c'est pareil en fait. C'est bref, il y a pas un gros. Je veux dire après, c'est surtout tactiquement où ça change tout.
Oui, tout à fait.
Donc, ça me fait pas peur. Et puis on a joué Royan, on a gagné. On a joué Saint-Jean-d'Angély. On prend un but au bout de 5 minutes, mais après. On a fait un super match où on méritait de gagner. Même à la fin, ils nous l'ont dit, l'entraîneur de Régional 1. Et pourtant, si vous regardez Saint-Jean-d'Angély, il y a que des équipes avec des CV de fou, on va dire. Donc, la R1, c'est pas un niveau qui fait. Mais voilà, ça, c'est intéressant.
Et puis la R2, nouvelle génération avec cette ligue de Nouvelle-Aquitaine où on intègre beaucoup d'équipes de Gironde et de Dordogne, c'est aussi une R2 qui est hyper relevée.
Ah non mais bien sûr, là il y a pas photo hein. La vérité, nous on est dans la poule là, c'est pas pour me plaindre ou des choses comme ça, on est là dans la poule la plus difficile. Là vous voyez franchement chaque match, je vous dis sincèrement, c'est chaque équipe a des arguments pour gagner l'autre. Ça veut dire que même moi je peux même pas vous dire, pourtant on a joué presque tout le monde, je peux même pas vous dire qui va terminer premier, qui va terminer deuxième ou des choses comme ça. Dans les matchs allés l'année dernière, je pouvais dire bah eux ils vont lui sera premier, lui il va terminer dans les quatre. Ça on pouvait voir ces choses-là. Mais là, sincèrement, c'est impossible de voir qui va terminer premier, qui va être dans les quatre premiers, ainsi de suite. La vérité, c'est vraiment, là, il y a un niveau, c'est vraiment, tout le monde peut battre tout le monde. Et ça joue au foot, c'est athlétique aussi, c'est intelligent, c'est un exemple bidon. Je vous prends juste une équipe, on va prendre le Médoc Atlantique. L'entraîneur, c'est Lilian Lasland. Dans leurs joueurs, ils ont deux anciens professionnels. Il y a une autre équipe, le gardien, c'est un ancien professionnel. Et ainsi de suite. Vous prenez Libourne, c'est que des joueurs prétendant la N3, c'est que des clubs structurés qui ont envie de monter. C'est pour vous dire, et Nontron, c'est une grosse équipe aussi.
Oui. C'est vrai que le binôme Nontron-Limens, c'est deux équipes de Dordogne qui étaient en R3 l'an passé. Mmh. Et c'est vrai que c'est deux équipes qui sont hyper ambitieuses. Limens qui a été, je crois, au 8e tour ou au 7e tour de la Coupe de France la saison dernière. Et puis Nontron, on l'a vu à Mornac, hein. Ils sont venus gagner en Charente en Coupe de France. C'est une équipe qui avait fait aussi un super parcours cette saison.
Ouais, c'est des équipes. C'est pour vous dire, là, les équipes de Dordogne et de Gironde, franchement, c'est relevé. Et c'est intéressant. Moi, j'aime ces challenges-là. J'aime jouer contre des grosses équipes, voir ce qu'on vaut. Et puis, voilà. Et puis aussi apprendre à nos joueurs que pour terminer dans les premiers, il faut être exigeant avec soi-même et rien lâcher jusqu'à la fin. Et que, voilà, ça ramène un autre état d'esprit de tout le temps travailler, tout le temps pousser, tout le temps. Et même dès qu'il y a un bon résultat à la fin d'un match comme ça, t'es content, tu sais ce que t'as fait. Voilà, tu sais que, voilà, ça ramène double joie. Et non, mais c'est intéressant. Et puis moi aussi, j'apprends beaucoup aussi. Les joueurs, voilà, on apprend beaucoup sur. En termes d'expérience, un championnat comme ça, on apprend beaucoup.
Donc, je crois que la saison passée, Nidine, on t'avait reçu. Et l'objectif, certes, c'est l'équipe Fagnon, mais il y avait également un souci que tu connaissais, c'était au niveau de l'équipe B, où entre les deux, il y avait quand même un décalage. Aujourd'hui, par rapport au résultat, donc, il y a beaucoup de mouvements qui se sont faits à l'intersaison. Comment aujourd'hui, tu peux nous dire comment se fait-il que cette équipe est première?
Eh ben là on a bien travaillé sur le recrutement. On a réussi à fédérer tous les joueurs, quels qu'ils soient, à les emmener dans un objectif club. C'est-à-dire qu'on est dans un club. C'est pas que pour. Bien sûr, il faut jouer pour l'équipe Fagnon, mais voilà, c'est il faut voilà l'objectif prioritaire, c'est de resserrer les niveaux, donc c'est se maintenir en équipe première, mais il y a l'équipe B aussi, l'équipe réserve, essayer de la faire monter. Et puis tous les joueurs, sincèrement, ils jouent tous le jeu, c'est-à-dire que qu'ils soient en première ou en équipe réserve, ils se donnent tous à fond. Et l'idée aussi, c'est de maintenir cette concurrence-là. C'est-à-dire que moi aussi, je suis exigeant. C'est, voilà, si un jour tu as été en dessous en équipe première, eh ben, tu repasses par l'équipe réserve. Et quelqu'un qui a été bon en équipe réserve repasse en équipe première. Donc, on arrive à faire tourner comme ça. Et on a fait surtout un très bon recrutement pour avoir deux bons, essayer d'avoir deux bons effectifs pour l'équipe première et l'équipe réserve, quoi. Et c'est ce qui fait que voilà, les résultats ils sont là, les gens aussi ils sont impliqués. Il y a pas, si vous voulez, on n'est pas un club tout pour la première. Voilà, on n'est pas un club tout pour la première. C'est aussi l'équipe réserve, elle est ici et elle est considérée. On essaie de tout faire pour mener à bien ce projet. Et un exemple qu'il faut savoir, c'est qu'on a changé aussi l'équipe réserve jouant en équipe jouer en levée de rideau de l'équipe première avant. Donc pour ce qu'on a fait, on a mis exprès l'équipe réserve jouer le lendemain, le dimanche, pour pouvoir intégrer des moins de 23 ans qui peuvent redescendre et jouer une mi-temps avec l'équipe première, et puis le lendemain ils peuvent jouer avec l'équipe réserve. Donc aussi on a misé sur ça. C'est pour ça que je vous dis, on a fait un très bon recrutement où il y a pas mal de jeunes. On a pas mal de jeunes en dessous de 23 ans où on peut profiter de ces choses-là. Donc c'est pour ça que voilà, on a tout le temps une équipe complète en équipe réserve avec de la qualité.
Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous recevons Didine et le club de Cireuil qui répond aux questions de Dédé et de Christian.
Donc en parlant de votre réserve, donc elle est première avec 8 victoires à 2 nuls, 0 défaite, 26 points. Il y a déjà 7 points d'avance sur Mornac qui est deuxième. Par rapport à cette équipe réserve, je voudrais parler du binôme d'entraîneurs, à savoir Bilal Arfaoui qui joue encore sur le terrain et puis David Delcuna. Il y a quand même l'expérience d'avoir coaché Spayou en R3. C'est aussi important aussi d'avoir des entraîneurs qui ont un beau vécu de joueur comme Bilal et puis de l'expérience comme David.
Non, bien sûr que c'est hyper important. Bien sûr. Et puis surtout, ce binôme-là, il a été choisi parce que c'est des gens qui se connaissent d'avant et ils ont déjà travaillé ensemble avant. Donc, ça peut ramener que de la force à notre équipe réserve. Et en plus, en tant que joueur aussi, Bilal, il montre l'exemple. Ça veut dire qu'il va se battre encore plus. Et les gens, ils voient que l'entraîneur se bat très très fort pour son équipe, ça pousse les joueurs autour à se battre aussi. Donc non, c'est un très bon binôme. Et puis il y en a un, il est plus spécialisé dans tout ce qui est sportif, ajuster l'équipe, des choses comme ça. Il y en a un autre qui est plus spécialisé dans la communication. Donc c'est bien et ça permet de après c'est bien d'avoir il y a un coach et un coach adjoint, d'accord. Ça veut dire qu'il y a un coach qui est Bilal, c'est le coach, et le coach adjoint c'est David. Il y en a un qui prend les décisions finales, mais deux cerveaux, ce que je veux dire, deux cerveaux, c'est tout le temps mieux qu'un cerveau pour ajuster des choses, surtout pour gérer une équipe, parce qu'on gère des humains, on a peut-être 16, 18 joueurs à gérer. Il suffit juste qu'il y en a un qui joue pas trop et il sent à l'écart. Donc voilà, la communication, David, il a plus ce côté-là, et puis Bilal, lui, il a plus le côté sportif, quoi.
Et puis on voit mieux avec 4 yeux au lieu de 2.
Ouais, c'est sûr. Et puis après, on échange ensemble, et puis on s'entraide, on essaie de. Et puis surtout, c'est comment aussi on est basé sur quoi. C'est comment le joueur aussi se sente bien, il se sente pas à part, et il sente qu'il est sa place dans ce projet. Et puis voilà, qu'on a besoin de tout le monde, et que ça soit même des joueurs de l'AC, ainsi de suite. On essaie de faire attention à tout ça. Et voilà, que nos joueurs se sentent bien, et puis qu'ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Et puis forcément, la victoire appelle la victoire. Vous avez démarré ce championnat de D2 par des victoires assez larges. Et c'est vrai que quand on est dans une bonne dynamique, tout rigole.
Bien sûr, c'est vrai. C'est hyper important, parce que la victoire, ça ramène de la joie et beaucoup de cohésion. Voilà. Franchement, c'est bien sûr, la victoire, ça amène que du positif. Après, ce que je disais pour l'année 2023, là, on va dire la seconde partie de saison, là, il faut savoir qu'on va être attendu de partout. Ça va être il faut pas se relâcher et il faut commencer directement par une victoire. En plus, on va jouer Chasseneuil, c'est une équipe qui est troisième et qui a un match à retard et qui a envie de bien faire, et que je sais qu'ils ont déjà repris les entraînements et ainsi de suite à fond, et ils veulent nous écraser, façon de parler. Donc il faut qu'on soit vigilant. On sera l'équipe à abattre, et tout le temps se donner les moyens à l'entraînement, travailler, puis Et puis voilà, après, ça te bat de fil en aiguille, en vrai. C'est du bon sens. On travaille.
C'est vrai que quand on regarde cette poule A de D2, moi, je la trouve superbe parce que, mais il y a des réserves de R2, R3 comme la vôtre, comme celle de Ruffec, La Roche-Rivière, Saint-Arièx qui dégomme tout le monde en R3, Charente-Limousine qui est en R2. Et puis après, il y a quand même des équipes premières comme Mornac, qui ont quand même des joueurs hyper expérimentés et qui ont joué largement au-dessus. Mansle aussi, qui a des joueurs comme Ludo Schneider, Dorian Pujat. Enfin, c'est vraiment une poule.
Il y a Verdi aussi. Verdi, où ils ont leur attaquant Ramos qui marque pas mal de buts aussi. Non, il y a franchement, sincèrement, il y a c'est une belle poule. Hein. C'est une belle poule et déjà la première partie de saison à avoir ces résultats-là, franchement, c'est magnifique. Hein. C'est super. Après, le plus dur là, c'est comme pour l'équipe première, pareil. C'est la seconde partie de saison, c'est vraiment ici que tout va jouer, quoi. C'est vraiment là. Après, on a bien démarré, maintenant c'est comment bien finir tout ça.
Parce que quand on est premier, les équipes nous regardent un peu différemment.
Ah non, oui, non, mais c'est sûr. Dès qu'on est premier, ben on est vigilant, l'équipe adverse est vigilante. Et puis il y a une motivation, c'est comment faire tomber les premiers. C'est-à-dire que même le dernier, il va tout faire pour. C'est chaque match, ils sont trois fois plus difficiles. Tandis que si vous êtes en milieu de tableau, on fait pas trop attention à vous. Vous comprenez, on se dit, on prend le match un peu plus à façon de parler, c'est psychologique, un peu plus à la légère ou des choses comme ça. Mais là, en plus, sachant que tout le monde se connaît aussi dans cette poule, on va dire, bah, ça met une motivation en plus. Ça veut dire, ah ouais, j'ai pas envie de perdre contre mon copain, j'ai pas envie de perdre contre lui, je vais me donner à fond encore plus. Donc, non, c'est une belle poule et puis c'est pas rien de gagner 8 matchs, c'est pas rien, c'est qu'il y a du travail derrière. C'est qu'on voit pas, on voit le résultat, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc je félicite David et Bilal et même les joueurs et tous les joueurs qui jouent le jeu, hein. Franchement, il y a rien à dire.
Ben on les félicite aussi. Moi d'ailleurs je remercie David Alcuna qui m'envoie donc chaque week-end son étoile parce que les entraîneurs ont des deux votes pour le meilleur joueur adverse, donc je les remercie parce qu'il m'envoie toujours ses votes, donc c'est cool.
C'est un bon, c'est des bons gars. Non, c'est super.
Et puis c'est vrai que R2 D1 ça aurait de la gueule.
Ouais, franchement ça serait super. Ben ça serait sincèrement, si on y arrive, ça serait très très bien. Là il nous reste, on a fait que la moitié du chemin. Il reste beaucoup. Après, on verra en fin de saison. J'espère qu'on arrivera à faire ça.
Mais il y a peu de clubs qui peuvent se dire qu'on a une première en Ligue et une deuxième en D1 à part Merpin, à l'Alliance 3B et le Roi. C'est les seules équipes qui ont une B en D1 au final.
Ouais, ils ont une B. Et puis, je pense que l'Alliance 3B va monter en R2, je pense. Donc, ça sera. Après, leur équipe réserve, je sais pas si ça va tenir. Mais non, bien sûr, après, l'idée, c'est comment être attractif et resserrer les niveaux. Et puis, ça donne plus envie à des joueurs de venir. C'est comment, les champs après, voilà, c'est comment être attractif, ramener plus de joueurs. Et puis, que si quelqu'un descend R2, c'est pas qu'il se retrouve en deuxième division de district. Au moins qu'il se retrouve en première division de district et puis vice versa, c'est un autre niveau que deuxième division de district. Donc l'idée c'est ça et voilà, on essaye d'avancer petit à petit. Après on faut être prudent, on a fait que la moitié du chemin, on n'a rien fait encore. Maintenant c'est de confirmer notre première partie de saison et pour essayer d'arriver à cet objectif. Et puis derrière ça il y a du travail, mais aussi il y a la chance. Il y a une partie de chance où il faut pas trop de blessés, où il faut que tout le monde soit là, les suspendus et des choses comme ça, quoi. Donc c'est un tout. Donc j'espère que ça va continuer comme ça.
98.3, 90.7, c'est la fréquence de Radio Altitude en Charente. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h, 20h30, nous recevons Didine et le club de Cireuil qui répond aux questions de Dédé et de Christian.
Oui, pour continuer donc Didine sur les seniors, on a parlé de la R1, on pourrait passer un peu plus de temps. On a présenté fort bien la division 2, mais il y a une troisième équipe, c'est l'équipe C. Et moi je trouve, je connais bien la commune de Cireuil, hein, où il y a 1100 habitants, et de retrouver trois équipes à Cireuil. Je trouve que il y a un gros travail qui est effectué par l'ensemble des dirigeants et de ceux qui sont encadrants.
Oui, après c'est faut le relever parce que c'est vrai que c'est pas rien tout ça, on se rend pas compte, mais derrière ça il y a du très il y a beaucoup de travail. Et après c'est comme je vous le dis, hein, on est en Charente, des viviers de joueurs, il y en a pas beaucoup. Je veux dire il y a quelques-uns, mais on est beaucoup trop de clubs le nombre de joueurs qu'on a, et puis d'avoir trois équipes en équipe senior, franchement, c'est si on se rend pas compte, mais c'est du joli travail. Et puis en plus là, et après faut voir aussi les joueurs de la B, certains joueurs de la B qui les ont lancés sans grincher, des joueurs de la C qui, et on s'entraide comme ça. Et puis après cette équipe C, c'est surtout le plaisir, en gros. C'est un peu du foot loisir, c'est comment s'amuser tout en jouant au foot, et voilà. C'est un point d'honneur aussi de notre président. Il n'a jamais voulu abandonner l'équipe C et tout ça. Il s'est tout le temps battu pour, et voilà. Et puis après, l'idée, c'est de trouver des bonnes personnes qui s'en occupent. Puis on a trouvé deux personnes aussi qui s'en occupent vraiment bien et qui arrivent à maintenir cette C de saison en saison, et sans déclarer forfait, je veux dire, sans qu'on soit forfait, quoi. Donc c'est très bien. En plus, là, on a battu les premiers Bouex, on a battu les premiers, on est deuxième au classement, donc c'est pas mal, c'est bien.
Votre C, elle est en D4, c'est ça?
Elle est en 4e division de district, ouais. Et voilà, après il y a la coupe aussi qui peut, ça serait bien de faire un bon petit parcours en coupe des réserves. C'est ça, coupe des réserves, ou je me trompe peut-être?
Oui, c'est coupe
ça.
Des réserves, ouais.
C'est ça. Ouais, coupe des réserves. Faire un bon petit parcours en coupe des réserves, ça serait bien.
Tu parlais de travail, mais c'est vrai que quand on mesure le chemin parcouru depuis le club, enfin par le club depuis on va dire depuis peut-être 10 ans, la première était en D1 et la B était en D4 D5, et c'est vrai que maintenant vous êtes en R2, peut-être D1 dans quelques mois, on vous le souhaite, et puis même D4, enfin le club vraiment il a remis vraiment le cap vers l'avant là.
Non, il a mis le cap vers l'avant. Après, c'est comme tout, c'est comment s'entourer, essayer de trouver des bonnes personnes compétentes, et la stabilité fiable, c'est-à-dire que sur plusieurs années, qui reste, voilà, un projet sur plusieurs années. Et là, c'est ce qu'on arrive à faire, et c'est ce qui fait qu'on récolte ses fruits aujourd'hui. Et puis voilà, et puis aussi comme je vous dis, dès que je vous dis de rendre le club attractif, c'est comment donner envie à d'autres personnes de venir signer dans notre club. Puis là, on arrive à faire ça, donc il y a des joueurs qui viennent par eux-mêmes pour essayer de s'entraîner avec nous et essayer d'intégrer ce projet-là. Donc non, il y a que du positif. Puis il y a l'école de foot aussi, il y a l'école de foot, on avait six enfants, maintenant on est plus de 60 licenciés. Ouais, c'est un gros travail. Après, surtout, c'est voilà, trouver les bonnes personnes compétentes et fiables, des bonnes personnes, voilà, qui restent sur du long terme et qu'on puisse avancer d'année en année, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc mais derrière ça, voilà, il y a beaucoup, on s'imagine même pas, mais c'est un gros travail. Et c'est pareil pour tous les autres clubs.
Bien sûr.
C'est pareil pour tous les autres clubs. On se rend pas compte, le football amateur, c'est vraiment c'est un travail monstre. Et puis voilà. Après, voilà, c'est les résultats qui nous rendent heureux. Voilà. Et puis moi, je suis content, je suis satisfait de tout ça. Et puis voilà, c'est parfait. Et maintenant, il faut continuer. Voilà, c'est comment stabiliser tout ça.
Oui. Bien sûr, je vais faire la transition, puisque tu parlais de jeunes. Effectivement, il y a énormément de jeunes qui viennent s'entraîner. Qui s'occupe de ces jeunes? Est-ce que tu as un regard? Et oui, peut-être des futurs champions, mais comme il y a 1100 habitants à Sireuil, ils viennent d'où, ces enfants?
Donc là, ce qu'on a fait, voilà, comme vous le dites, nous, on est une petite commune. Ça veut dire que même l'équipe senior, des choses comme ça, on est obligé de prendre des joueurs en dehors de la commune, parce qu'autrement il y a pas assez de joueurs pour le club de Sireuil. Donc on prend des joueurs en dehors de la commune. Il y en a ça vient de Cognac, il y en a ça vient d'Angoulême, il y en a ça vient de petites villes à côté. Et puis les jeunes, c'est pareil, les jeunes c'est un peu là, c'est surtout d'Angoulême. Et puis là, on a réussi petit à petit à rendre attractif notre école de foot. Puis là, il y a une quinzaine de Sireuil qui viennent, mais c'est surtout vraiment chez les petits U6, U9. Et jusqu'à même les U10, U11, il y a pas mal de jeunes qui commencent à venir. Et puis voilà, c'est comment, petit à petit, qu'il y ait plus de joueurs de la commune, et puis des alentours, Châteauneuf, des choses comme ça, qui viennent intégrer cette école de foot. Mais voilà, et on intègre aussi les jeunes d'Angoulême. Et dans ces jeunes-là, c'est des jeunes de ma campagne, parce qu'on était en partenariat avec ma campagne, mais là, comme elle est en liquidation, ça a coulé. Et du coup, c'est plein de petits jeunes qui étaient adhérents à l'MJC de ma campagne. Et donc, on travaille en partenariat avec eux. Et du coup, voilà, puis on arrive à proposer à ces jeunes-là, à tout le monde, pratique sportive, voilà, notamment le foot, ils aiment ça. Et puis derrière ça, c'est aussi il y a un travail éducatif, Et puis aussi le problème de parents, parce que même c'est pas que dans notre club, mais dans plein de clubs aussi où les parents ils laissent leurs enfants comme ça, comme si c'était une garderie, des choses comme ça. Et puis nous on est beaucoup sans ces choses-là, c'est-à-dire qu'on fait tout seul, qu'on prend l'enfant de A à Z. Et puis voilà, c'est pour ça que je vous dis le travail éducatif aussi il est hyper important.
Bien sûr.
Et du coup on essaie de transmettre tout ça. Et puis après on parle par rapport aux joueurs qui peuvent intégrer l'équipe senior. Après nous on n'a pas l'école de foot niveau, on va dire les U15 en régional, les U17 en régional, des choses comme ça. Nous c'est surtout basé sur quoi ? Sur prendre plaisir, transmettre des valeurs éducatives, l'esprit de groupe, la cohésion, respecter les règles. Des choses comme ça. Après, petit à petit, si un exemple, on a un très très bon joueur en U15 ou des choses comme ça, moi le premier, je lui dirais, écoute, va en régional, je vais pas le garder exprès, je vais penser d'abord à qu'il puisse progresser à un super niveau et voilà, je vais pas le garder pour moi. Donc l'idée, nous, c'est surtout basé sur l'éducatif et prendre plaisir et transmettre des valeurs citoyennes, quoi, surtout notre école de foot, et puis s'entraider.
D'ailleurs,
après, voilà, dès qu'on arrivera à certains niveaux, dès qu'on arrivera à stabiliser cette école de foot vraiment bien et passer des niveaux, là on pourra piocher dedans pour certains jeunes, mais là pour l'instant on n'y est pas encore, mais le but il est là.
Et à ce propos, il y a eu un goûter de Noël qui a donc été financé, organisé à ma compagne du côté de la GS Sirogne.
Voilà, c'est ça, ouais. En plus là, la GS Sirogne fait un travail remarquable, on ne se rend pas compte, mais sur le plan social, vu que la MJC Louis-Aragon est en liquidation, ça veut dire que tous ces jeunes qu'on a là, toutes ces familles-là, il n'y a plus rien qui leur est proposé. Et donc, du coup, la JS Sireuil a mis un goûter de Noël là-bas sur ma campagne. Tous les parents sont venus, ils ont fait un goûter partage. On aura fait une petite activité sportive aussi. Et puis, notamment aussi, pendant les vacances, on a fait un petit stage de foot. Et en même temps, ils ont fait une activité, ils sont partis au cinéma. Ils sont partis au cinéma voir, je crois que c'était Avatar. Donc, on essaie de faire des choses, voilà, sur le plan social, faire des choses, et puis voilà, de laisser personne. Il n'y a pas que le sport qui est, que les résultats, la compétition. Bien. C'est que derrière le foot, ce qui est grand, c'est qu'on peut transmettre plein de bonnes choses. Et ces enfants-là, c'est comment leur transmettre d'être des bons citoyens et de l'entraide et des choses comme ça. Donc, on essaie de travailler sur cet aspect-là. Mm-hmm. Après, peu importe, même si on perd des 5-0 le week-end avec les petits, on n'est pas là sur la compétition à fond. On est là pour leur transmettre. Voilà, on essaie de faire la part des choses et voilà.
Ce que je trouve bien, c'est que entre la JS Sirogne et d'autres petits quartiers qui seraient entre guillemets des oubliés, vous allez vous apporter un lien social et ça c'est très important.
Bien sûr, ouais. Après, ce qui est bien, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est parce que le foot, il y a bien sûr, il y a les niveaux, il faut jouer, essayer de gagner des choses. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va transmettre à ce jeune-là et voilà. Et nous, on va chercher ces jeunes-là. On essaie de même certains de les former, même des éducateurs, des choses comme ça. On essaie de toucher à tout ça, de l'insertion. On essaie de rendre les gens un peu plus heureux, ramener du bonheur dans le cœur des gens et des parents aussi. Et puis voilà. Donc ça. Ça nous embête pas des fois de prendre le rôle de façon de parler. On est éducateur, mais de prendre le rôle un peu avec un jeune de façon de parler, de grand frère, de le prendre. Et il n'y a pas que ça y est, on lui met des crampons, juste tu joues au foot, c'est fini. Non, on essaye de savoir un peu aussi de comprendre sa situation familiale, sa vie, l'école, des choses comme ça. On essaie de se mettre en lien avec tout ça pour que le jeune puisse en dire au mieux. Mais c'est du gros travail, ça. C'est beaucoup de travail. Sincèrement, on ne pourra pas tout réparer, mais on essaye. Doucement, et puis voilà.
Ouais. Est-ce que vous avez des passerelles avec des établissements scolaires?
Là, justement, on est sur ma campagne. Là, on s'est mis en lien avec l'école primaire qui est juste à côté. Après, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est Jean Moulin.
Oui, c'est mon école.
Jean Moulin, Ronsard, et puis il y a le collège juste à côté, Pierre Baudet. Donc là, pour l'instant, on est dans ça. Et puis là, on a une équipe U16, U17. Justement, là, on vient juste de reprendre, on vient juste de vraiment reprendre. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de se mettre en lien avec leur lycée et puis aussi des autres structures, même des éducateurs de rue, des choses comme ça, pour essayer par ce biais-là du foot. essayer de que le jeune ne dérive pas dans les mauvaises choses et puis essayer de s'entourer de voilà c'est important donc là on essaie de mettre en lien tout ça et c'est pour ça que je vous dis c'est un gros travail.
Les U17, d'ailleurs, vous êtes en entente avec le club de Bélair.
Avec Bélair, voilà.
Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que, du coup, c'est important pour vous d'être en entente avec eux dans le sens où une personne comme Yazali Sako est aussi très impliquée avec les jeunes est-ce que, finalement, Bélair, c'est un club aussi qui a les mêmes valeurs que vous?
Bien sûr, Bélair, ils sont en plein dans ça, Bélair. Ils sont en plein dans cette chose-là, dans les mêmes choses que nous. Et c'est super, c'est remarquable ce qu'ils font parce que on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail et ils font beaucoup de travail, mais c'est pas que sportif. C'est global. Même dans l'insertion, dans l'école, des choses comme ça. Et puis le fait que Yadali, lui, son travail, c'est il travaille au CAJ de Bélair et il est avec les 11-17 ans. Il est référent de ce public-là. Et c'est ce qui fait que lui, il est en lien avec des éducateurs, avec des assistantes sociales, avec les familles, avec tout ça. Et ce qui permet d'avoir cette école de foot, ça lui permet de voir un jeune s'il a un problème, de le mettre en lien directement avec sur le plan social, on va dire peut-être avec un éducateur ou si la maman a un problème avec une assistante sociale ou des choses comme ça. Donc il y a tout le temps ce lien là, ça veut dire qu'il y a un lien et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a le foot, mais derrière ça c'est comment aussi arranger les vies des familles autour qui ont des problèmes, des choses comme ça. Et donc c'est magnifique. Si on peut faire ça partout, ça serait le top. Ça serait le top de chez top. Donc non, bien sûr, c'est une fierté même de travailler ensemble. Et puis voilà. Et nous, on a grandi comme ça aussi. On a grandi, on était des enfants, avec des problèmes. Puis on a eu de la chance d'avoir des structures qui nous ont beaucoup apporté. Moi, un exemple, c'est la SOYO. Dès que j'étais jeune, ils ont fait beaucoup pour moi. Il y a le FLEP. Le FLEP, c'est un centre social qui a fait beaucoup pour moi et ça m'a transmis des valeurs. Bien et sûr. C'est ce qui a fait que j'ai pas dérivé à des moments ou d'autres et je me suis accroché. Et puis voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes comme ça. Et puis l'idée, c'est de faire la même chose. C'est comment transmettre ces mêmes choses-là à certains jeunes qui vivent les mêmes choses qu'on a vécues avant. Et puis voilà, et à travers le sport, je vous dis la vérité, il y a plein de choses à faire. C'est magnifique. Hein. Donc on est dans ça. On est en plein dans ça.
Ce qui prouve bien, c'est que il y a pas de valeur dedans. Il y a aucune valeur qui compte individuelle. Je parle valeur, je me comprends. En parlant de valeur, c'est tout le monde, quoi. Là, il y a pas une catégorie plus que l'autre. C'est ce que vous faites, donc c'est très bien.
Nous, la GSIRE, c'est comme je vous dis, c'est pas tout pour l'équipe première. C'est pas parce qu'il y a certains clubs, c'est comme ça. C'est nous, bien sûr, il y en a, ils vont se baser sur les résultats sportifs. Bien sûr, nous, on veut des résultats, mais c'est tout le monde est important. Nous, on essaie d'impliquer vraiment tout le monde. C'est-à-dire que même là, c'est l'AB, l'école de foot, tout ça. Et même dès qu'on fait le bilan, par exemple, du week-end, on va parler de l'école de foot, de la C, de la B et de la A. De leur dire, je suis content, regardez, il y a eu ça, on a réussi ici, ta. Pour exprès ce discours-là, dès qu'on fait le bilan, c'est que le joueur de la première s'intéresse à ce qui se passe en B, en C, à l'école de foot. Et puis, dans nos joueurs qu'on a certains, en équipe première, ils sont éducateurs en équipe, une règle, c'est ils sont éducateurs, chez les petits, ceux qui ont le temps et des choses comme ça. Donc, on essaie de faire ça, comme ça, ils s'intègrent dans la vie du club, ils voient un peu les difficultés des jeunes, et puis voilà, on essaie de, et puis ces jeunes-là aussi, on essaie de les former, et puis ainsi de suite.
On a pas mal de temps de réunions, tout ça, parce que.
Oui.
D'abord, pour faire l'équipe première, pour poser les équipes, et puis les jeunes, quoi. Il faut aller se déplacer à la campagne, il faut aller les chercher, des fois.
C'est une logistique, c'est une grosse organisation. Après, il suffit juste d'un petit pépin, il faut un plan B de secours. C'est sans cesse, en vrai, c'est du travail à temps plein. En fait. Sincèrement, c'est du travail à temps plein. Mais on a réussi à faire une équipe où on aime ça. Et puis, on est content. Nous, c'est la récompense. Et on va dire chez les enfants, c'est de voir leur sourire. Même chez les parents, ils sont contents. On arrive à. Et puis, chez les grands, avec une bonne cohésion. On base surtout nos choses sur ça. Quoi. On est de passage, façon de parler dans cette ville-là et puis dans ce club-là, c'est comment chaque saison ramener quelque chose de positif à ce club-là et entre nous et puis voilà, c'est comment arriver à ça et puis on est dans ce truc-là quoi. On essaie de
Il y en a un qui veille sur vous tous les jours.
On se rend pas compte, mais sincèrement, moi je l'ai pas connu, mais
moi, je l'ai connu.
Il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et sincèrement, c'est énorme. Il a fait beaucoup de bien. Et puis là, Moi, je suis content, je l'ai pas connu, mais.
Mais j'ai connu.
Moi, un exemple, ce que j'essaye aussi de transmettre à certains joueurs et même à tout le monde, c'est l'historique du club. C'est important de savoir. Dès qu'on met un maillot, c'est pas je mets juste un maillot juste pour jouer contre un exemple bidon. Allez, on va dire Merpin. C'est pas juste je joue mon match et c'est fini. Derrière ça, ce maillot-là, il y a un historique. Il y a Gérard Cliveteau, c'est lui qui a construit tout ça. Il y a des dirigeants qui ont donné beaucoup de temps. Donc ce maillot-là, il a un poids. Et ce poids-là, il faut savoir le porter et rendre fier ces gens-là. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, on peut arriver de perdre un match. Mais si on a mis les ingrédients et on perd, c'est pas grave. Mais si on s'est pas battu et on perd, bah là, indirectement, c'est un peu manque de respect par rapport à tous ces gens-là, qui ont fait des choses bien, qui sont battus pour ce club-là et monté surtout une belle image et des choses comme ça. Donc, moi, je suis content du travail qu'on fait et je pense qu'il serait là, il serait content aussi. Et voilà, c'est comment ils rendre fier des gens qui ont donné du temps, qui ont donné du temps pour ce club-là. Et puis voilà, et puis ça va de soi. C'est en vrai, c'est du bon sens. Dès qu'on s'engage, ouais. c'est comment donner du 100% de soi pour
il faut dire que si ce club est au niveau qu'il est aujourd'hui, moi j'ai bien connu Gérard parce que j'ai joué au foot pendant une dizaine d'années à Sirogue, donc je connais bien le club, j'ai joué jusqu'en excellence à Sirogue et si je connais bien ce club, j'ai connu Valérie toute petite, qui était gamine, j'aurais jamais pensé qu'un jour elle aurait pris le club, mais heureusement qu'Alain, il a débuté en C à Sirogue et il est le président aujourd'hui, Burbeau qui est à Pili. C'est vrai que si ce club aujourd'hui est en R1 et j'espère plus tard en R3.
Non, en R2 peut-être R1, on verra.
En R2, j'espère. En pensant à Gérard, évidemment, c'est des souvenirs qui me reviennent. Je pense que il est à l'origine de ça, même si malheureusement il nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Oui, il est fier parce qu'il y a même des professionnels qui ont été joués à Sirogue. Daniel Solos, moi j'ai joué avec lui. Donc voilà, c'est les souvenirs, mais c'est bien de continuer. Et je pense qu'il a jamais connu Gérard ce qu'il connaît avec toi aujourd'hui, la jeunesse, le lien social et les trois équipes. Ça, il les a pas connus. Ça, c'est juste une histoire. Je pouvais te la raconter, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler du club, c'est bien.
Et des dirigeants. Oui. Après, bien. Bien sûr que lui c'est la base de toute façon. Lui c'est la base de ce club-là. Ça veut dire que tout ce qui arrive après, c'est que bénéfique pour lui. C'est lui qui l'a, on va dire, conçu ce club-là. C'est lui qui a tout fait pour qu'il existe. Et à Sireuil, à votre époque, on va prendre un exemple. Vous jouez le dimanche sur un terrain un peu. Et puis petit à petit, ça a évolué. Maintenant, c'est le samedi soir. On a plus de créneaux. Ça commence à ça a pris de l'ampleur. Ça veut dire que ça a avancé, ça a évolué. Et puis sportivement, ça évolue aussi. Et puis là, ce que tu disais là, le bilan des choses, qu'il y a une équipe de foot, qu'il y a trois équipes, je veux dire qu'il y a une école de foot, ouais, qu'il y a trois équipes seniors, des choses comme ça, c'est que positif et il mérite tout ça parce qu'il a fait beaucoup de bien. Et puis aussi, il faut mettre en avant Valérie et Alain qui ont pu reprendre le flambeau correctement et qui font du bon taf, qui sont à fond dans tout ça et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence avec d'autres clubs. Des fois, il suffit juste que le président ou les gens haut placés, ils vont pas dans le bon sens. Et puis, voilà, le club, il coule petit à petit. Et eux, ils vont dans le bon sens. Ils sont, voilà, dans le social. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont pris la continuité de ce qu'ils faisait Gérard et ils l'ont bien fait. Ils le font bien. Ils font bien.
Et avec leur activité professionnelle, ça demande du temps aussi.
Ça demande du temps. Après, imaginez-vous un exemple. Je prends juste Alain. Alain, lui, il est tout à chaque match, école de foot, les plateaux ou des choses comme ça. Des fois, ça lui arrive de passer des journées entières à la buvette en train de servir le café aux gens. Mm-hmm. Un président qui fait ça, je vous dis la vérité, j'en ai pas vu beaucoup. Sincèrement, c'est pour vous dire que lui, il est à fond dans son club. Et la semaine, il y a son travail qui lui prend du temps. Après, il est à l'écoute. S'il y a un souci, des choses comme ça, on peut l'appeler. Et le week-end, il est tout le temps à la buvette en train de servir. Vous imaginez, c'est alors que normalement, il devrait peut-être laisser quelqu'un d'autre. Et puis il y a Guy Burbeau aussi. C'est quelqu'un à 70 ans, il est tout le temps là. C'est des gens. Franchement, c'est magnifique. Et c'est pas dans tous les clubs qu'on voit des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a envie de se battre pour ces gens-là, parce que c'est des gens, voilà, ils sont à fond, ils sont là, ils se donnent à fond, et puis ça montre l'exemple, alors qu'ils devraient se reposer un peu, façon de parler. Mais c'est magnifique. franchement, c'est vraiment, c'est magnifique d'avoir des gens comme ça. Et Valérie aussi, hein, Valérie, c'est qu'elle, elle est là, elle est discrète dans ce qu'elle fait, mais elle est très, très importante dans tout ça. Et pour une femme, dans façon de parler, hein. Pour une femme dans un monde, de footballeur, et ben, franchement, elle assure beaucoup, franchement, sincèrement.
Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous recevons Didine et le club de Cireuil qui répond aux questions de Dédé et de Christian.
Pour revenir sur Valérie, je peux te le dire bon aujourd'hui, c'est que elle aimait pas le football du tout. Elle est venue par rapport à Alain. Mais bon, pour revenir au terrain, parce que ça, c'est des histoires qu'on pourrait discuter hors antenne, mais l'objectif ou les projets dans les deux ans à venir, quand on voit évidemment l'équipe première qui est quatrième, l'équipe B qui est première, bon, les projets pour l'avenir.
Les projets pour l'avenir, c'est déjà de comment dire. Si on arrive à maintenir nos objectifs, c'est de stabiliser tout ça encore, de ramener aussi d'autres personnes, de stabiliser, l'école de foot aussi, garder nos joueurs, essayer de ramener renforcer avec d'autres joueurs. Et puis niveau infrastructure, là ils ont redrainé le terrain, ils ont fait des choses bien sur le terrain principal. C'est comment on a un petit terrain là sur le côté de football à 8, un petit espace. C'est comment aussi qu'on puisse l'utiliser, le drainer, des choses comme ça. Et puis l'avenir c'est comment stabiliser tout ça et trouver des bonnes personnes, se renforcer avec d'autres personnes pour nous aider à faire à tenir ce projet dans le bon sens, quoi. Et c'est après c'est de rester en régional 2 et voir si on peut monter en régional 1, ce serait très bien. Et puis l'équipe réserve être en première division de district la saison prochaine, ce serait très bien. L'avenir, ça serait cool que ça soit comme ça. Et puis je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit. Puis
une belle aventure en Coupe de France encore.
Ouais, c'est bien. Là,
mémoires, votre parcours jusqu'au 7e tour.
Ah non, mais franchement, c'est magnifique. Sincèrement, c'est comment on revive ces choses-là. Chaque année, on essaie de se battre pour essayer de revivre ces choses-là. Mais après, ça dépend du tirage, ça dépend de nous, comment on est, l'effectif, des choses comme ça. Et puis, même là, cette année, notre objectif, c'était 4e tour de Coupe de France. On l'a fait. En plus, on a joué contre une régionale 1. Ouais. Je vous dis, Saint-Jean d'Agélie
en éliminant en préalable une autre régionale 1.
Voilà, Royan, et puis après on a joué une deuxième div, je sais plus, à Bordeaux, qui n'était pas trop une troisième div, parce que c'était au-dessus largement. Et puis après on a joué Saint-Jean d'Angély, une très belle équipe aussi, et on est passé de peu qu'on a perdu de peu. Mais on a maintenant notre objectif, après là c'est comment se maintenir. Et puis voilà, et puis essayer avec l'équipe B de l'équipe réserve il y a la Coupe de Charente aussi, hein, pour l'équipe réserve. Ce serait bien de faire un bon petit parcours aussi.
T'évoquais la réforme là des championnats qui a lieu cette année. Est-ce que du coup le fait qu'il y ait autant de descentes, parce que du coup ça fait deux descentes de plus que la normale, est-ce qu'en début de saison du coup on regarde quand même plus derrière que devant? Enfin, est-ce que ça change quelque chose dans ton esprit? Feu orange. Il y a 4 descentes sur 12, donc il y a forcément un petit danger.
Bien sûr, là, comment on essaie de voir les choses. De toute façon, moi, c'est essayer de gagner tous les matchs et de prendre le plus de points possible et se concentrer que sur nous. Mais ça t'emmène obligé à regarder ce qui se passe derrière toi. C'est-à-dire que tu regardes même pas le haut, tu regardes derrière toi si tu as mis de l'écart aux équipes, si tu leur as mis 5, 6 points, 7 points ou 10 points ou des choses comme ça. Tu regardes derrière toi pour voir si tu es... C'était si tu risques pas de descendre.
Oui.
Le
premier des objectifs au final, c'est de se maintenir le plus rapidement possible.
C'est ça. C'est mathématiquement comment se maintenir le plus vite possible. Et après, Et voir ce qu'il y aura à la fin de saison. Mais avec ce qu'ils nous ont mis là cette année, c'est ça. Et en plus, il faut savoir, je crois que t'as les deux meilleurs huitièmes qui restent. Ça veut dire que t'as d'autres huitièmes qui descendent.
Ah oui.
Ouais, ça veut dire que c'est chaud. Ça veut dire que même si tu termines huitième, il faut que tu sois dans les meilleurs huitièmes pour pas descendre.
L'an prochain, d'ailleurs, Didine, est-ce que tu as une vision sur... parce que je sais qu'en N2, l'an prochain, c'est aussi un peu galère par rapport au maintien. Il y a beaucoup de descentes. Est-ce qu'au niveau régional, ça va se... est-ce que vous avez eu déjà des infos par rapport à l'an prochain? Est-ce qu'il va y avoir autant de descentes ou ça va revenir à la normale?
Non, mais je pense que si ça descend de N2, obligatoirement, ça va descendre aussi en régional, je pense. Mais on n'a pas encore d'informations. Mais ils disaient qu'ils allaient arriver à ça sur plusieurs saisons. C'est-à-dire oui, que là, ils vont en faire descendre 4, mais c'est-à-dire que la saison prochaine, ils vont en refaire descendre. Oui. T'as pas 2, mais peut-être un peu plus, peut-être 3 ou par poule, ou je sais pas. Mais ils vont faire ça sur plusieurs saisons. Donc, il faut s'attendre à la saison prochaine, qu'il y a encore des descentes, peut-être pas 4, mais peut-être 3, ou je sais pas comment ils vont faire ça. Mais c'est intéressant dans leur truc, parce que ça va resserrer les niveaux, et vraiment, une National 3, on va vraiment voir que c'est National 3. En Régional 1, vraiment, ça va être comme un peu à l'ancienne, ce que j'ai connu avant, il y a très longtemps. Où c'était vraiment, tu sentais la différence.
Et puis c'est vrai que vous, en R2 l'an prochain, on espère forcément qu'il y aura le maintien. Et l'an prochain, ce sera aussi un beau championnat parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont descendre de R1 et peu d'équipes qui seront de R3. Donc, ça va rehausser encore le niveau de la R2 l'an prochain.
Ah oui, non, mais c'est sûr, là. Déjà, là, je vois juste la poule qu'on a, là. Je me dis, c'est costaud. Je me dis, la saison prochaine, ça va être vraiment costaud. Ça va plus rigoler, hein. Et il faudra venir équiper, pour se maintenir. Il faudra venir équiper, hein. Ça va plus rigoler, là. On va vraiment ressentir, déjà, juste la saison prochaine, on va vraiment ressentir les choses, hein. Si on est en régional 2, j'espère, on va le ressentir tout de suite. Et pour ça, après nous, la seule lacune qu'on a ici en Charente, c'est que c'est niveau vivier, quoi. C'est pas comme Bordeaux, ils ont des joueurs de partout. Nous, on va se battre pour les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 équipes en Charente, on va se battre pour avoir des meilleurs recrues possibles, mais on va se battre. Ils ont le choix, on a peu de joueurs pour 4-5 équipes en Charente, et c'est ce qui fait que ça va être difficile pour un peu tous les clubs de Charente, quoi.
Comment ça se passe d'ailleurs pour recruter quand on est au niveau régional? Alors bon, certes, il y a moins d'arrivées maintenant parce que ton groupe, tu l'as construit au fil des saisons, mais comment ça se passe du coup? C'est vraiment au réseau ou c'est... Tu parlais tout à l'heure de rendre le club attractif, c'est aussi ça qui fonctionne bien?
Bien sûr, l'idée c'est de dès que tu fais parler de toi, t'as pas eu monter, t'as joué les premiers rôles l'année dernière et là cette année ça va, et puis Coupe de France, des choses comme ça, ça donne envie. Et après il y a le réseau, bien sûr, c'est copain entre copains, et puis aussi il y a le réseau, l'entraîneur qui connaît un tel et tac tac, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est un réseau, mais nous le souci c'est qu'en Charente, si vous voulez, on dépend de, et c'est normal, c'est très bien, on dépend d'Angoulême et de Cognac. C'est-à-dire que tous les meilleurs joueurs, tous les jeunes joueurs, bons joueurs, ils aspirent à jouer au plus haut niveau. Donc, on les contacte, on les fait venir à Cognac, des choses comme ça. Mais comme le jeune, des fois, c'est arrivé qu'il s'entraîne avec l'équipe première, on va dire, de Cognac, mais il va jouer qu'avec l'équipe réserve de Cognac. Ce qui fait que c'est un joueur que nous, potentiellement, on aurait pu prendre avec nous en R2. S'il joue en R2 et puis et qu'il fasse une grosse saison, au moins qu'il puisse jouer, et ce qui fait qu'on on récupère un peu les façons de parler, les restes de ces clubs là.
Oui, mais notamment, il y a plusieurs joueurs qui ont joué en équipe réserve à Angoulême que vous aviez récupéré.
C'est ça.
Je pense à des, alors ça remonte à quelques années, mais il y a des joueurs que je connais très bien comme Coco Romain, comme le petit Smaïd Rissi. Ouais. Et puis il me semble que t'as Léo Grasso dans ton équipe en ce moment.
Léo Grasso, ouais. Léo Grasso.
Ça, c'est des joueurs qui ont joué.
Qui ont
joué en R1 avec la CFC.
Avec la CFC, ouais. Et puis je suis content parce que moi c'est l'idée c'est de construire avec des jeunes et tout ça, mais s'ils ont l'opportunité mieux qu'à Cirey, je veux dire de jouer plus haut et des choses comme ça. Et puis donc j'avais pris ces joueurs, il y a Isma et Coco, et Redouane, hein, ils ont été contactés par Montmorillon sur l'année où ils étaient avec moi à Cirey.
Oui.
Parce qu'on avait joué contre Chauvigny, on avait joué contre, et puis ils ont été remarqués, et puis ils sont partis à Montmorillon, ils ont fait une année. Ils sont maintenus, puis maintenant Coco, il a Chauvigny, il s'entraîne avec le groupe premier, il fait quelques apparitions en N3 et il joue avec l'équipe réserve de Chauvigny qui est, je crois, dans les deux premiers ou les trois premiers dans leur championnat.
En R2.
Et il y a Isma qui est en régional 1 à Cognac, et il y a que Redouane que j'ai récupéré cette année avec moi, et Léo Grasso lui qui est resté parce que par rapport à l'école, par rapport au travail, des choses comme ça, il pouvait pas se permettre de bouger. Donc il est resté avec nous, et puis c'est des bons petits jeunes. Après, ces jeunes-là, ils aspirent à jouer plus haut, des choses comme ça. Et puis c'est pour ça que peut-être que la saison prochaine, peut-être qu'on les aura pas, peut-être que ça va être Cognac qui vont les contacter, ou Angoulême, ou des choses comme ça, à condition qu'ils fassent une grosse saison en R2. Donc c'est des jeunes, qu'il faut essayer d'impliquer au club, qui Donc c'est pas évident. Mais c'est pour vous dire que en vrai chaque saison c'est un combat parce qu'il faut se battre pour essayer de garder nos joueurs et puis essayer aussi de ramener d'autres joueurs et au vu de nombre de clubs qu'on a et nombre de joueurs c'est compliqué.
Ouais, c'est un peu le principe des vases communicants en fait, c'est ça.
Ouais,
c'est
totalement ça. En vrai, c'est une galère. Mais après voilà, on se bat comme ça. Mais il faut savoir que c'est où je voulais porter. Ce que je veux dire, en gros, c'est pour vous dire que chaque saison, c'est un gros travail en amont à faire pour préparer la saison d'après. C'est oui, comment garder nos joueurs, comment c'est compliqué. Et des fois, ça se fait à la dernière minute ces choses-là.
Et puis en parlant de garder ses joueurs, je voulais quand même évoquer le cas de quelques cadres de ton équipe, notamment un que je connais très bien, parce que je l'ai vu démarrer à Angoulême. Ouais. C'est forcément Nicolas Tissot.
Ouais.
D'avoir un joueur comme Nicolas Tissot, au milieu de terrain, c'est hyper important.
C'est hyper important. Et puis je pense qu'il a trouvé sa place parce que il se sent bien chez nous. Et sincèrement, je pense qu'il a trouvé sa place. Bien sûr que c'est un très bon joueur. Et puis voilà, il se sent chez lui. Il est à l'aise. Quoi. On a réussi à le mettre à l'aise. Il se sent bien. Il est chez lui. Et lui, parce que c'est quelqu'un, il lui faut pas trop de comment dire. Il faut le juste milieu entre la rigueur et le côté familial, s'amuser, des choses comme ça. Parce que lui, dans un club très, 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 où il y a beaucoup de rigueur, c'est quelqu'un, il n'est pas au summum de ses qualités. C'est pour ça que je vous dis, c'est un gros travail aussi. C'est un peu le management, des choses comme ça. Et là, à la maison, ils sont très, très bien.
Oui. Donc, j'ai vu qu'il marquait des pénaltys, mais est-ce qu'il met toujours des frappes de 30 mètres?
Les frappes de 30 mètres, il en met, mais là, ça fait pas mouche en ce moment. Là, ça vise les poteaux de corner, ça vise les tribunes. Non, je rigole. Ça fait pas mouche en ce moment. Mais il peut. Il a tout le temps cette qualité-là. Et puis après, voilà, il faut trouver le bon moment pour la mettre. Quoi.
Il y a aussi derrière. Tu parlais de la défense. Comment ne pas parler de Jimmy Cassady?
Ça, c'est les cadres. Même lui, c'est pareil. Il se sent bien à la maison. Il est bien. Et c'est des joueurs sur qui on peut s'appuyer. C'est important parce que dans une équipe, il faut des cadres. Et eux, voilà, c'est les cadres un peu de l'équipe. Ils communiquent beaucoup avec les jeunes. Non, c'est important. Et puis footballistiquement,
c'est toujours ton capitaine d'ailleurs.
Ouais, c'est tout le temps mon capitaine. Dès que c'est pas dès que Jimmy n'est pas là, parce que c'est pas arrivé, suspendu ou des choses comme ça. Après, c'est soit Nico Tissot, soit mon gardien de but, Guillaume Tardieu aussi. C'est un ancien du club. Si c'est des figures importantes de ce club-là. Ça fait des années qu'ils y sont. Et il n'y a plus rien à leur apprendre, façon de parler.
Parfait, Didine. Nous arrivons au terme de cette émission. Puis je sais que tu dois aller t'occuper des jeunes des clubs de foot. On te remercie pour ta spontanéité, pour avoir répondu rapidement à notre appel. Merci de nous avoir fait partager les valeurs de la JS Sireuil. On sait que c'est un club familial, qui véhicule des valeurs importantes, donc pour la formation des hommes et pas simplement que pour la formation des footballeurs. Merci encore, Didine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous et puis au plaisir.
Allez, on essaiera de te contacter en fin de saison pour voir où on en est. D'accord.
Ouais. Ouais, merci beaucoup.
Allez, ce sera avec plaisir. Bonne fin de soirée, Didine. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.